Bonjour à tous, bienvenue sur le 92e épisode de Comics Weekly. Cette semaine, je suis avec Kinghead.
Oui, bonjour à tous.
Et avec Mr. René Bunny.
Eh oui, bonsoir, bonjour, ou bonne matinée, ou je ne sais pas, bonne nuit les gens.
Voilà. Nous sommes le vendredi 27 avril, il est 20h33 exactement, et nous dédions notre 92e épisode à un groupe que tout le monde connaît et tout le monde apprécie forcément, les Tranxènes de sang.
Et vice versa.
Voilà. Nous en parlions juste avant et on doit leur rendre hommage, je pense. C'est important.
J'ai oublié le nom de ce groupe, extraordinaire.
Donc bien sûr, comme chaque semaine, on va s'intéresser aux plus grosses sorties de la semaine et puis nos petits chouchous qui sont pas forcément des choses les plus attendues, mais en tout cas qui nous font toujours plaisir à lire chaque semaine.
Ouais.
Mais avant cela, nous allons commencer par la traditionnelle partie news. Alors dans les news de cette semaine, encore une fois pas grand chose, hein, cette semaine c'est un peu moumou hein, au niveau des news.
Un peu moumou, oui.
On sent que c'est la saison des conventions qui recommence bien, hein, on garde les grosses annonces pour les moments où il y a des week-ends de conventions et ça fait un maximum de buzz. Malgré tout, on a quelques infos sur la série Booster Gold.
Ah bon ?
La série Booster Gold de Sci-Fi.
Ah.
Sci-Fi a décidé de vraiment d'avancer avec le projet, de vraiment booster. Donc le.
Oh putain, c'est. Oh putain. Oh putain, monsieur.
Oui, non. En fait, j'ai pas fait exprès. j'ai vraiment pas fait exprès. Effectivement, ils essaient vraiment de pousser ce projet un maximum. Donc le pilote va vraiment se tourner très bientôt et avec un peu de chance, on aura peut-être une série Booster Gold.
Ouais.
Voilà.
On verra bien ce que ça donne, mais Sci-Fi, depuis qu'ils ont dit qu'ils annulaient la suite de Battlestar Galactica, enfin, ils avaient prévu de faire une série justement sur l'univers Battlestar Galactica et ça a été annulé alors qu'ils avaient fait un super trailer qui donnait vachement envie. Depuis maintenant, je les déteste, donc ça me dit
tu
rien.
Peux pas détester Sci-Fi. Sci-Fi ont des superbes séries comme Warehouse 13 ou Eureka.
Non, mais non.
Ce sont des superbes séries. Si monsieur.
Ouais. Mais Blood and Chrome, ils avaient prévu de faire une série Battlestar qui avait l'air trop bien et ils ont tout arrêté, je suis déçu. Enfin bon, c'est pas grave, on verra.
Et peut-être un jour un spécial série.
Peut-être. D'ailleurs, est-ce que je peux continuer un peu sur les séries?
Mais vas-y, je t'en prie.
Alors voilà, il y a la bonne news de la journée, enfin en tout cas pour moi et je crois aussi pour Steve peut-être, qu'on a appris que Fringe allait être poursuivi pour une saison 5. Donc de 13 épisodes, ce sera pas une saison de plus de 20 épisodes.
Qui sera la dernière.
Qui sera la dernière, et donc ça veut dire que ils vont pouvoir prendre leur temps pour raconter la fin de la série, et ça fait plaisir, parce que c'est une série qui nous plaît beaucoup, et qui devrait plaire pas mal aux amateurs de comics, parce qu'il y a pas mal de clins d'œil à l'univers des comics.
Oui, et côté série... Les thèmes abordés sont purement des thèmes de comics. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc c'est franchement une série que je conseille et voilà, on
et
est content.
Que je ne regarde pas encore tellement et que ma mère regarde activement. C'est très bizarre.
Non, mais par contre, c'est vrai qu'il faut préciser simplement que cette dernière saison aura 13 épisodes. Elle a mis déjà du temps à être renouvelée, tout simplement parce qu'elle fait des audiences mais pitoyables. Il n'y a pas d'autre mot.
C'est pour ça qu'on avait très peur. Hein.
On est rendu à 2 à 3 millions de téléspectateurs.
2 à 3 personnes, hein.
Pour une série de si grande envergure et sur un network principal, c'est quand même très, 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 très peu. On a des séries avec un chiffre comme ça qui ont été annulées, même s'il restait des épisodes à diffuser.
Et par contre, il y a un gros socle, une grosse fanbase des gens qui sont vraiment fans et qui le montrent, hein, sur Internet via des forums. C'est une série qui est quand même, qui a pas mal de succès critique aussi, donc, c'est quand même bien.
Bah, les Anonymous sont très fans, d'ailleurs, ils vont faire la suite de la série si elle s'arrête.
Sinon, un autre petit point série. Alors moi, je suis l'animé Young Justice, et il y a la saison 1 qui s'est terminée la semaine dernière. C'était vraiment très très bien.
On s'en fout. Tu veux pas non plus qu'on t'offre les DVD?
J'ai déjà le premier coffret DVD, mais et donc ce qui est sympa, c'est que la saison 2 commence dès cette semaine. En fait, il y a même pas de pause entre les deux saisons, et ça s'annonce très bien. Il y aura de nouveaux membres dans la Young Justice. Dans la bande-annonce, on voit pas mal de personnages intéressants, donc je pense que ça va être vraiment bien.
Et surtout, on parle d'une future invasion.
Eh oui, c'est ça, une invasion. Donc,
les plus vieux lecteurs de comics DC sauront de quoi on parle.
Oh d'accord. Et trêve de plaisanterie, c'est bien, donc c'est une série que même les adultes peuvent apprécier.
Alors pour moi, Young Justice, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en dessin animé comics. C'est même meilleur que les derniers films d'essai qui sont sortis en DVD, genre leur adaptation de La Tour de Babel, je l'ai trouvé moyenne. Dans Young Justice, il y avait une histoire un petit peu équivalente qui était beaucoup mieux faite.
Moi, j'ai fait une tour de Babybel il n'y a pas longtemps.
Non, franchement, c'est une série que je conseille et ça ne s'adresse vraiment pas que aux enfants. Il y a des scénarios qui sont vraiment bien élaborés et il y a même une série de comics papier qui est un peu en parallèle de la série qui est intéressante.
Ouais, qui est publiée sous le label DC Kids, hein, comme ouais. Étaient publiés les Tiny Titans, etc.
Voilà, comme étaient publiés peut-être déjà même les adaptations du dessin animé Batman dans les années 90.
Mais c'est pas si mal parce que ça raconte des choses qui se passent entre les épisodes, en fait. Non, c'est sympa. Moi, je conseille la série.
Bon, est-ce que ça envoie du pâté, hein, comme t'as dit la semaine dernière? Moi, j'ai envie que tu ressortes cette expression.
Ouais, ça envoie du pâté, Young Justice. Il faut essayer, il faut voir.
Moi, j'avais vu le pilote et j'avais trouvé ça très sympa. J'ai malheureusement pas eu le temps de continuer. Mais je pense pouvoir me rattraper cet été où il y aura moins de séries à voir, donc forcément.
Voilà.
C'est à ce moment-là qu'on rattrape toutes les séries qu'on n'a pas eu le temps de voir durant l'année.
Et un autre petit point, donc on parlait d'animé, il y a une rumeur comme quoi le prochain animé d'essai ce serait sur une adaptation en fait de Flashpoint. Donc pourquoi pas, s'ils veulent introduire l'univers des New 52 en animé, ils commenceraient avec justement l'event Flashpoint. Donc ça pourrait être sympa.
Je sais pas, pour moi c'est un peu trop récent. J'aurais préféré qu'ils fassent d'autres trucs parce que, sauf s'il ne passe pas au New 52 dans les animés, faire Flashpoint, ça, forcément tout le monde va se dire on va passer au nouvel univers et donc on risque de plus avoir d'adaptation d'anciennes histoires.
Après, on peut imaginer qu'ils ne parlent pas de la fin de Flashpoint, quoi, que ça se termine différemment et qu'il n'y ait pas cette histoire de fusion des univers et que...
C'est possible.
Que ça soit juste un Elseworld, en fait. Ça peut très bien être un Elseworld sur l'univers DC.
C'est possible.
Une dernière petite chose par rapport aux séries et aux jeux vidéo, c'est cette semaine, il y a le premier épisode de Walking Dead, donc le jeu vidéo, qui vient de sortir sur PC et sur console. Donc c'est les studios Telltale qui sont spécialisés dans le jeu de un peu à la Monkey Island.
Mais et pas que, hein, puisque c'est aussi eux qui font les Lego.
Non, je crois, je suis pas sûr.
Ah non, c'est Traveler's Tale, pardon, excuse-moi.
Ouais, c'est ça. Non, eux sont vraiment spécialisés dans les point and click et j'ai téléchargé le premier épisode et j'ai commencé à y jouer et c'est vraiment très sympathique. Donc ça coûte 20 € pour 5 épisodes ou alors on peut acheter les épisodes à l'unité et c'est un épisode par mois ce qui coûtera 5 €. Il y en aura 5 au final et ce qui est intéressant c'est que c'est canon avec l'histoire des comics et ça raconte un peu ce qui se passe pendant que Rick est dans le coma. Donc avec l'apparition des zombies et pour l'instant ce que j'ai joué j'ai trouvé ça vraiment sympa.
Et c'est canon. Non, en fait pour les gens qui ne savent pas, canon veut dire que ça rentre dans la continuité. Précisons-le parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont
pas. C'est vrai.
Oui, les gens ne savent pas forcément. Oui, effectivement.
Tu as raison, Benny. Voilà.
Tant qu'on est encore sur les adaptations, les choses qui touchent au milieu du comics sans être du comics vraiment, on a entendu parler aussi d'une possible adaptation de Axe Cop sur la Fox l'année prochaine.
Oh putain, en animé.
Oui, en animé, ce serait pour le moment apparemment il devrait commander 6 épisodes de 15 minutes.
D'accord. Mais ce qui enverrait vraiment du pâté, comme dirait notre ami, c'est un film, hein, carrément, quoi. Je veux dire, ce serait complètement délirant.
Ah, moi je pense qu'en animé c'est ça qui bat de toute façon avec un dinosaure déjà dans l'équipe.
Ouais, ou bien alors un truc en image de synthèse mais bien fait quoi. Bien fait, c'est bien.
On en reparle de toute façon quand on aura plus d'infos. C'est prévu pour début 2013 donc on a largement le temps.
Voilà. Ça n'a rien à voir avec le déo.
Ouais. Axe.
Ah oui, oh ben oui forcément.
On va gagner la fameuse soirée de l'été sur le Axe Boat.
Allez, pour terminer la partie ciné, film, etc., un petit chiffre. Pour le moment, Avengers a l'air de plutôt bien déboîter, puisque le chiffre que j'ai, je ne sais pas de quand il date exactement, montre que, puisque le film n'est pas sorti, alors on enregistre aux États-Unis, il sort aujourd'hui aux États-Unis, donc il n'y a pas de chiffre encore, mais il y a un chiffre pour tout l'étranger, et c'est 17 millions de dollars.
Oh, petit joueur.
En 2-3 jours d'exploitation. C'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt pas mal lors de 3 jours d'exploit.
Non mais ça va être un carton. Hein,
tout ouais. Là ça envoie du, je sais pas, c'est même plus du pâté là. On est carrément dans le.
C'est des rillettes.
La charcuterie tout entière, ouais voilà.
On en reparle la semaine prochaine puisqu'on vous prévoit un petit spécial Avengers.
Puisqu'on l'a tous vu maintenant et d'ailleurs on a détesté. Donc de toute façon on va en dire le plus grand mal.
Oui bien sûr, bah normal. Allez, on continue vite fait sur quelques news comics. En comics pur, Jeff Lemire, qui est un homme très occupé actuellement, il est peut-être un peu trop, et finalement il va laisser tomber Frankenstein Agent of Shade.
Ouais, il fait trop de vaisselle en ce moment.
Oh non! Oh non, c'est pourri!
Voilà.
Donc il sera remplacé par Matt Kint, qui va prendre sa place au niveau du scénario. Alberto Ponticelli et Wayne Fosher vont rester à la partie graphique, et qui le prend la suite au numéro 10, c'est-à-dire au mois de juin.
Une autre petite news au niveau comics, donc chez Marvel, là c'est tout chaud, là on vient d'apprendre la future menace en fait de cette mini-série Spider-Man. Donc bon, ce sera Mysterio qui sera un peu l'ennemi qui va permettre que les deux Spider-Man se rencontrent entre les deux univers. Donc pourquoi pas, on attend de voir.
Oula, alors la grosse révélation, ça va être qu'au fait tout l'univers Ultimate, depuis le début, c'est une illusion créée par Mysterio.
Mais non, alors là, je serais pas du tout d'accord.
Mais non, l'univers Ultimate était contenu dans un ballon de foot par un certain petit Franklin.
Oui, mais ce même ballon était une illusion provoquée par Mysterio et Mephisto. D'ailleurs, on va apprendre que Mysterio, c'est au fait Mephisto.
Non, mais Mephisto est le fils de Mysterio, tout simplement.
Mais tout à fait, mais bien entendu. Et je rappelle d'ailleurs que le nouveau Hawkeye, c'est Bucky. Je ne cesserai de le répéter, il faut que les gens l'assimilent.
Toutes les semaines, on y aura droit.
Toutes les semaines, pendant un an.
Moi, de mon côté, j'avais rien d'autre en news comics importante cette semaine.
Non, moi non plus. Sinon, il y a les news de Corwin. Tout
exactement,
ça,
pour compléter un petit peu, là, on vous fait un petit résumé des choses assez importantes, mais pour compléter ou pour voir aussi un autre traitement de l'information, n'hésitez pas à aller sur le site et à voir les news que fait notre ami Corwin.
Les news de Corwin sur Comic City.
Ainsi que, bien sûr, des unspoken, des reviews anciennes et récentes, donc. Et puis,
Des unspoken, des reviews anciennes et récentes, donc.
Allez, on va passer aux reviews de la semaine.
Allez, on va passer. Non, pas genre.
On va peut-être pas le faire tout le temps, quand même. Ça risque d'être lassant. La grosse sortie de la semaine, c'est AVX versus. Hein?
Mais disons que au moins, c'est celui qu'on a tous lu. Après, est-ce que c'est la grosse sortie de la semaine?
Ça fait partie de la grosse sortie de la semaine, puisqu'on est en plein AVX. C'est le début de cette mini-série en 6, qui n'est qu'un gros combat. Hein. Imaginez un tournoi de DBZ, c'est la même chose.
Voilà, ou bien un tournoi encore mieux pour la comparaison de Marvel versus Capcom 3.
Ouais, tout à fait.
Oui, bien sûr. Voilà. Comme c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, je n'ai pas ce genre de référence.
Et ben c'est même mieux d'y jouer. Hein.
Voilà, c'est ce que je dirais. Moi, j'aurais tendance à dire que parfois certaines parties du jeu sont plus intéressantes que AVX versus numéro 1. Mais bon.
Tout alors, le temps, hein, c'est même plus fun parce que là, lire ça, c'est un ennui terrible quand même.
Alors, AVX versus, c'est tout simplement deux histoires dans chaque. Alors, je sais pas si ce sera comme ça partout, mais je pense que oui. Hein, ce sera à chaque fois deux histoires dans un numéro. Donc deux histoires de 10 pages. La première, c'est on nous annonce la couleur, on en avait déjà parlé la semaine dernière, hein, c'est de la baston, il n'y a pas de scénario, c'est juste pour se friter, quoi. Pour que les gens soient contents de voir des gens se friter.
Iron Man.
Voilà, Iron Man contre Magneto, avec au scénario Jason Aaron, Adam Kubert au dessin. Et The Thing face à Namor, par Catherine Immonen au scénario, Stuart Immonen au dessin, et Wade von Kraft-Badger à l'ancrage.
Voilà.
Bah alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah même WrestleMania, c'était mieux.
Et pourtant c'était pas bon.
Et pourtant c'était pas terrible du tout. Ouais.
C'est sympathique. Bon, franchement la partie graphique, moi j'ai trouvé ça sympa. On a joué des valeurs sûres quoi. Kubert et Immonen, c'est de la valeur sûre.
C'est joli.
Mais bon, voilà.
J'ai pas été bluffé cette fois-ci justement par Kubert et Immonen.
Le petit truc.
Je trouve qu'ils étaient pas à leur meilleur niveau, aussi bien l'un que l'autre.
Bah, Kubert ça va, franchement.
En même temps, j'étais peut-être mal.
Non, puis bon, en même temps, c'est de la baston, quoi. Tu peux pas non plus montrer des prouesses graphiques monstrueuses quand c'est des mecs qui se tapent dessus, et surtout quand c'est deux gars qui se tapent dessus. Déjà, quand c'est une baston épique avec 50 000 mecs d'un côté et 50 000 de l'autre, forcément, là, ça prend des proportions monstrueuses d'un coup. Là, c'est deux gars en solo qui se tapent dessus.
Enfin, je retire ce que j'ai dit. Encore Magneto contre Serge, c'est pas mal. Mais par contre, le Immonen, ouais, Immonen, je l'ai pas trouvé très en forme, quoi.
Il y a même pas de contexte, par contre. On arrive directement, c'est le combat.
Bah, le contexte, c'est au fait des parties de baston qu'on voit pas dans AVX.
Numéro 2, ouais.
Voilà. Et là, qui nous montre en intégrale. Putain, j'ai.
Il y a pas quelque chose qui vous a choqué, vous, à savoir que bah c'est, on a l'impression qu'elle sert à rien, ces bastons, puisque.
Non, mais elle sert à rien.
Puisque à la fin de chacune des bastons, on va pas dire ce qui se passe, mais.
Bah si, il y a un vainqueur et un vaincu, mais.
Oui,
voilà.
Mais presque pas quoi. Enfin.
Oui. La seule chose pseudo rigolote, hein, c'est-à-dire qui m'a fait lever un coin de lèvre pour dire que j'ai souri, les fun facts.
Ah bah moi je dirais il y a quand même un truc important, c'est que il y a deux gagnants et c'est deux gagnants du même camp. On va pas dire
oui.
lesquels.
Oui oui
on va
oui.
pas dire quel camp. Mais là
moi aussi,
il y a un camp qui a déjà deux points là.
J'ai eu la même réflexion aussi.
Mais moi ce que j'aimerais leur dire là, c'est qu'en fait il faudrait qu'ils s'inspirent un petit peu des shonen, donc des mangas japonais inspirés de, qui sont vraiment spécialisés dans la baston, parce que là en fait on voit les stratégies qui sont utilisées sont nazes quoi, enfin que c'est
ouais.
vraiment nul.
Y a pas de
alors,
recherche,
de la
alors
stratégie.
Que au cinéma c'est vachement bien.
Voilà, déjà dans le film Avengers les combats ont plus la patate quoi, et mais sinon ouais dans les shonen il y a des bons exemples de stratégies sympas où justement tu utilises bah les différentes techniques des personnages. Là c'est bourrin quoi, et oui, et dans le premier combat c'est complètement con la façon dont il s'y prend, je trouve.
Enfin en même temps si je vais faire comme Moscovici le soir des élections, je vais pas réussir à parler.
La super référence.
Non, mais pendant, je sais pas si vous avez vu la séquence, pendant 5 minutes, il dit dans, et franchement, il le dit, mais 40 fois. Bref.
Moscovici est coutumier du fait aussi.
Voilà. Mais cherchez sur YouTube, je pense qu'il doit y avoir le petit.
Mais j'aime beaucoup la façon de placer une référence politique en plein milieu. C'est
voilà,
pour ça que je dis la super référence quand même. C'est... dans un AVX versus, on est en train de parler de politique. Je ne comprends pas comment ça a pu passer comme ça.
Oh bah quoique, hein, c'est pas si loin non plus de la politique AVX.
Si, alors, là, si vous voulez comprendre le second tour, lisez AVX versus.
Ouais, moi,
les arguments fourris.
J'attends Hollande contre Sarkozy, ce sera sans doute plus passionnant, même ça que qu'AVX.
Bah, c'est sûr, oui.
Qu'AVX versus. Alors, du coup, je suis complètement perdu dans ce que je voulais dire.
Donc,
oui,
tu voulais réagir, oui.
Les shonen, oui, pardon. Mais par rapport au shonen, King Ed a raison. C'est-à-dire que, effectivement, ça aurait été plus drôle qu'on ait des combats plus inspirés. Et puis, on aurait eu, par exemple, Iron Man qui retire son armure et qui dit, voilà, je préfère t'affronter sans armure.
Façon
chevalier du Zodiac,
ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
Bon bah on va pas rester plus longtemps là-dessus. Hein. Honnêtement, c'est un pass quoi. Il y a absolument aucun intérêt à ce truc-là.
Ouais.
On s'y attendait de toute façon. Ils nous ont pas pris en traite. Ils avaient prévenu qu'il y aurait rien.
Oui, bah,
à ce point-là, je pensais pas qu'il y aurait autant rien. En fait, c'est assez bizarre comme tournure de phrase, je sais, mais.
Non, mais vaut mieux regarder les finales en fait des tournois de Ultimate versus Capcom et puis Marvel versus Capcom.
Il vaut mieux aller voir Avengers au cinéma.
Ou alors voir Avengers au cinéma, comme on disait tout à l'heure.
Vraiment.
Ok, donc passe pour tout le monde. On va continuer avec des petites reviews solo. Qui veut commencer cette semaine ?
Donc, je vais commencer. Donc chez Marvel, je vais vous parler de The Ultimates numéro 9. Donc ça, pour changer. Donc avec Jonathan Hickman au scénario, Ezra Dribitch au dessin et Dean White à la colorisation. Donc bah c'est mon numéro de la semaine. C'est toujours aussi bon. Pour la partie graphique, bon bah Ezra Dribitch, c'est toujours aussi réussi. Bah les combats ont la patate là, franchement par rapport à AVX versus ça n'a rien à voir, c'est vraiment une autre échelle. Pour replacer un petit peu l'action dans le numéro précédent, le président des États-Unis avait été à l'encontre du Shield pour attaquer Reed Richards et il avait balancé en fait toutes les bombes nucléaires du pays sur Reed Richards. En parallèle, on voyait Nick Fury qui était lui avec Zorn et Xorn qui était en train de combattre.
Pardon, ça me fait toujours rire.
Mais oui, c'est ça. Qui sont en train de combattre bah, des vaisseaux qui ont été envoyés par Reed. Voilà, bah, c'est la grosse baston partout avec vraiment c'est hyper over the top. C'est on a des attaques qui sont hyper impressionnantes. En parallèle, on voit l'agent Floom qui essaye de renverser le Shield et donc ils s'en prennent à Thor et à Tony Stark. Et là, on a un combat assez rigolo justement avec un Thor bien. Bah voilà, bah c'est assez sympa dans ce numéro-là. Et puis bah la fin, c'est juste une fin hyper spectaculaire. Et on comprend pourquoi précédemment ils avaient dit que l'univers Ultimate allait changer à tout jamais. Il se passe quelque chose, mais c'est la folie quoi. Donc bah pour moi, c'est un titre exceptionnel et faut vraiment l'acheter. Et ça fait vraiment 9 numéros excellents. Voilà, c'est un bail.
Comme tu y vas, exceptionnel.
Ah mais non, franchement exceptionnel. Enfin, quand vous verrez la fin, vous serez Vous serez sur le cul, quoi. C'est impressionnant.
Ok, très bien. Je vais continuer avec The New Dead Guardians numéro 2 sur 8. Donc la mini-série chez Vertigo, écrite par Dan Abnett et au dessin I.N.J. Kelbard. Je n'ai toujours pas fait de recherche pour savoir quel était son prénom complet. On en apprend un peu plus donc sur cette société où les zombies attaquent et que pour sauver la grosse partie de la population, beaucoup se sont transformés en vampires. Et ce numéro 2 va surtout, au-delà de commencer à vraiment avancer sur cette histoire du vampire qui est mort, ce qui est bizarre parce qu'un vampire est à la base mort, donc là on a vraiment un crime, et qui est pas mort surtout de façon traditionnelle pour un vampire, il n'a pas de pieu dans le cœur, il n'a pas été étêté, il n'a pas, enfin voilà. Donc on va avancer un petit peu sur ce cas, mais c'est surtout prétexte à nous présenter vraiment toute cette société. On comprend plus comment les choses se sont organisées depuis cette invasion de zombies, que finalement cette condition de vampire n'a pas forcément été, enfin a été choisie parce que c'était le seul moyen de s'en sortir, mais que c'était pas forcément quelque chose que les gens appréciaient. Et on commence à aussi comprendre les enjeux du pourquoi il faut absolument résoudre ce crime-là, puisque c'est notamment que si les gens qui ont déjà accepté à contre-cœur de devenir des vampires s'aperçoivent que des vampires meurent de façon inexpliquée, vraiment ça risque de provoquer des émeutes et de dégénérer totalement, puisque ils s'étaient simplement camouflés de la vision des zombies. Hein. Le fait d'être vampire, c'est comme ils sont morts. Les zombies ne les voient plus, tout simplement.
Non mais t'expliques mal, on peut devenir un zombie une fois, mais on peut pas devenir un vampire mille fois.
Donc voilà, donc non, un bon numéro. Alors au niveau du dessin, par contre, j'aime un peu moins que le premier. Franchement, je trouve ça un peu moins travaillé. J'ai l'impression, alors ça va peut-être être un peu un petit peu sec, mais j'ai l'impression de voir de la BD franco-belge, mais du type Agent 212.
Ok, d'accord.
Ouais, donc y a certaines cases où franchement on a vraiment l'impression d'une BD franco-belge comique.
D'accord.
Pas forcément très bienvenue, je trouve. Le dessin me satisfait vraiment moins que la première fois. Beaucoup plus de fond vide aussi. Bref, donc ça reste quand même très sympa. Il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère et un bon univers de développer. Donc ça sera un check-it plus, quoi. C'est pas une lecture absolue, mais c'est un bon check-it plus en tout cas. Voilà. À toi, Benny.
Oui, donc je vais vous parler donc de Battle Scars numéro 6, dernier de la mini-série, ou de la maxi-série comme ils l'appellent, je sais pas.
Non, c'est une mini, hein, c'est en 6, donc...
Enfin bon, voilà. Ils ont fait beaucoup de bruit autour de ça, c'est pour ça que je dis maxi. Alors, c'est marrant parce que on en oublie presque que c'est à la base un truc conséquence à Fear Itself, puisqu'il y avait l'autre série qui s'appelait...
The Fearless.
The Fearless, ouais. Qui sans intérêt, je pense. Je pense qu'on peut le
mais
dire.
Mais j'en avais parlé, rappelle-toi.
Ouais, oui, je m'en rappelle. Malheureusement.
Il y a de ça quelques semaines.
Donc là, au scénario, on retrouve quand même Chris Yost, Cullen Bunn et Matt Fraction.
Comme pour The Fearless.
Voilà, sur un script de Chris Yost, plus particulièrement. Scott Eaton est au dessin. Donc bon, bah l'équipe est pas trop mal. J'avais lu la toute première partie il y a longtemps. Et puis ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, cette histoire d'agents dont on ne savait rien, qui revenaient de la guerre et qui dont la famille était tuée, qui savait pas trop ce qui se passait, et puis qui était mêlé à des histoires avec le Shield. Le fameux Marcus Johnson, voilà. Et ce qui devait arriver arriva. Beaucoup l'ont deviné à l'avance, enfin notamment quelqu'un d'ailleurs de Buzz Comics, on peut le nommer Scarlet Needle. Qui avait, il y a des mois de ça, deviné qu'il s'agissait, au fait, on va le dire, de toute façon, là, ça va être spoiler.
Bah, de toute façon, on le sait depuis le numéro 4.
Donc, voilà, donc le fils caché de Nick Fury, ce fameux Marcus Johnson. Et là, ce qui est quand même très fort, c'est qu'ils font pas les choses à moitié, on voit que le film est sorti. C'est-à-dire que ce fameux Marcus Johnson perd un œil au combat.
Oui, dans le numéro 5.
Voilà. Et là, carrément, au fait, c'est juste la fin de la grosse baston finale. Une baston vite expédiée, c'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant dans ce numéro. Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout la fin. Alors, je suis désolé, mais je vais quand même peut-être spoiler.
Bah, de toute façon, c'était un petit peu partout dans les news.
Ouais.
Donc voilà. Bon, si vous voulez vraiment pas être spoilé, avancez à la review suivante.
Ouais, c'est ça. En grosso modo, à la fin, déjà nouveau look pour Marcus Johnson, c'est-à-dire que il se rase la tête. Il a un bandeau comme Nick Fury et il a exactement la tête de Nick Fury version Ultimate, donc Samuel L. Jackson, enfin le look des films, quoi.
Puis, surtout, on l'appelle Nick Fury.
Oui, on l'appelle Nick Fury. C'est ça qui est énorme. Alors,
il va reprendre la place de Nick au Shield, hein,
ouais.
Tout simplement.
Ouais, mais j'ai pas compris du tout quel intérêt. puisque on a déjà un Nick Fury comme ça dans l'univers Ultimate. Alors ils veulent vraiment coller au film.
En fait, on n'a plus Nick Fury. Hein. Si tu lis bien l'épisode, tu comprends que. Enfin, je sais pas si tu as lu juste le 6 et si tu avais rattrapé les autres.
Si ouais, mais.
Mais on comprend que le. Ben, moi, c'est déjà ce que j'ai apprécié dans cette série. Enfin, surtout vers la fin, c'est qu'on nous lit cette histoire avec ce qui s'est passé dans Secret Warriors.
Ouais.
Parce qu'on revoit Orion, on revoit le Léviathan, etc. Là, Nick Fury, en fait, perd tout ce qui lui restait d'Infinity Formula, donc il va crever bientôt. Là, oui, on nous amène le remplaçant à Nick Fury, quoi.
Moi, je trouve ça stupide. Enfin, je veux dire, Nick Fury, pour moi, c'est Nick Fury, quoi. C'est pas
oui, enfin, qui a la même tête. On sait très bien que Nick Fury, là, il est parti en secret. On a un petit texte à la fin qui nous dit voilà, on va retrouver Nick Fury bientôt. On pense que ce sera Uncanny, Amazing, ou peut-être Fantastique, et peut-être un petit peu Mighty. Merci, quoi. Ça va, on n'est pas trop cons. Donc on arrive à comprendre. On reverra Nick bientôt. Mais moi, j'ai bien aimé la transition. Après, le fait de la faire, je suis pas forcément d'accord.
Ouais, enfin voilà, c'est vraiment histoire de coller au cinéma. Et pour coller encore plus au cinéma, nous avons l'apparition d'un personnage mystère propre au film qui fait son arrivée dans les comics et ça a fait le buzz aussi. Alors là, je vais même pas dire qui c'est, on peut le deviner.
C'était son pote depuis le départ, mais comme il a jamais été nommé,
ouais.
On savait pas comment il s'appelait. Il l'appelait toujours par son nom de code. Il l'appelait toujours Cheese, donc on n'a jamais su que c'était son. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était bien amené, que c'était bien fait. Après, je suis pas d'accord sur le principe, mais c'était bien fait. Par contre, ça on peut pas le nier. On voit que c'est Chris Yost, quoi.
Oui, enfin voilà, c'est toujours sympathique, mais bon, enfin moi je suis jamais fan de tous ces trucs qui veulent coller au film absolument, parce que c'est toujours fait pour les fameux nouveaux lecteurs qui ont découvert les personnages grâce au film, mais ils n'existent pas, voilà, c'est tout. Enfin, ils n'existent pas, je veux dire, on est là, quoi. Les anciens sont là et on n'a pas besoin de ça.
Bah pourtant, des personnages comme X-23 ou trucs comme ça, ce sont des créations qui ne datent pas des comics. Hein.
Oui. Mais d'ailleurs, bah écoute, tu vois le résultat, hein, X-23, honnêtement, ça a jamais été le succès fou. On a toujours essayé de nous l'imposer avec plus ou moins de succès. Je sais pas, il suffit de faire des bonnes histoires, quoi. C'est tout ce que je demande. Pas forcément de coller à l'actualité des films, enfin bon.
Bah surtout s'ils vont faire une mini-série où il y aura le Ultimate Spider-Man qui va rencontrer Spider-Man classique, il y aurait très bien pu y avoir le Nick Fury de l'univers Ultimate qui apparaisse dans l'univers 616 comme ça, quoi.
Ah oui, alors justement, alors qu'est-ce qui se passe s'ils se rencontrent, hein? Bah, qu'est-ce qui se passe s'ils s'intervertissent, hein? Eh bah, ben la saga des clones, monsieur. La saga des clones. À nouveau.
Non, moi j'ai pas trop suivi l'affaire, par contre j'ai vu les news et moi ce qui m'a étonné c'est juste que au niveau du visage du personnage, avant les deux dernières pages du comics, on n'a pas l'impression qu'il ressemble à Samuel Jackson. Après, il change carrément de tête, quoi.
C'est les cheveux qui font ça.
Donc, c'est un peu bizarre de se dire juste en changeant les cheveux, on a l'impression de tomber sur Samuel Jackson.
Mais monsieur, c'est le pouvoir des chauves. Voilà.
Ouais. c'est un peu facile, mais bon.
Les cheveux à bouc, parce que il se laisse pousser. Ce que j'aime bien, c'est qu'il se laisse carrément pousser le petit bouc qu'il n'a pas avant.
Il s'est passé quelques semaines, c'est dit clairement. C'est marqué plusieurs semaines plus tard.
Non, mais c'est un Fury Canada Dry. C'est pas le vrai Fury noir.
Est-ce que vous avez une explication logique pour expliquer le fait qu'il a la présence d'esprit de... Enfin, pourquoi, comme par hasard, il se laisse pousser un bouc
Parce que les chefs ont le bouc, monsieur.
Non mais c'est extraordinaire. Il pourrait juste se raser la tête déjà, bon, ok. Mais là, comme par hasard, il fait tout pour ressembler à celui de l'univers Ultimate et des films, alors que, bon, bah, de toute façon... Normalement, ça n'a aucun rapport. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une coïncidence extraordinaire, quoi. Voilà,
c'est facile, hein. Mais bon.
Ouais. Non, mais c'est pour ça, comme je dis, c'est un peu facile, mais malgré tout, c'est quand même bien amené. Chris Yost a fait un bon travail pour amener tout ça. Bon, voilà, on verra comment ça va évoluer. C'est aussi un moyen de rajeunir Nick Fury.
Bah, c'est aussi un moyen d'avoir un personnage black qui est important, qui va compter dans l'univers classique. Mais oui. C'est un peu facile parce que c'est
oui, parce qu'il y avait Luke Cage, ça suffit, on en a trop bouffé.
Oui, en fait, ouais, c'est
vrai, Luke Cage. Mais au moins on aura un Nick Fury plus jeune qui n'aura pas les mêmes enjeux et qui arrêtera peut-être de toujours penser aux nazis.
Bah non, mais au moins on aurait pu avoir Luke Cage comme remplaçant de Nick Fury, ça aurait été plus simple.
Non, c'est bon, quoi, merci. On va pas l'avoir partout, quoi.
Ouais, ouais. Mais par contre, ce qui est bien quand même, moi je suis content du moment que Bucky c'est le nouveau Hawkeye, je suis content.
Ok, donc la note finale.
Ouais, non, c'était quand même sympa. Franchement, c'était plutôt une bonne surprise cette mini-série. Donc ouais. je vais dire, allez, c'est pas forcément le bail ultime. Je vais dire un check-it plus, quoi.
Mais pour le TPB surtout, hein, parce que là on est au numéro 6, ça sert. Sauf si vous voulez vraiment juste voir comment Nick Fury, le nouveau Nick Fury arrive dans l'univers. À part ça, voilà, vaut mieux prendre le TPB, je pense, vaut mieux attendre qu'il sorte.
Ouais.
Donc ouais, moi je suis comme toi, hein, Check It Plus aussi.
C'est pas le truc très important non plus, quoi, donc voilà.
Ok.
Alors bah on va changer, on va pas parler de DC ni de Marvel, je vais.
On va parler de Bienvenue chez Ch'ti.
Non, je vais vous parler de Mass Effect Homeworld numéro 1. Donc c'est une nouvelle série de comics sur la licence Mass Effect, où chaque numéro en fait va s'intéresser à un des personnages de l'équipage de Mass Effect, donc qu'on retrouve dans le troisième épisode. Et donc le premier numéro va s'intéresser au personnage de James Vega. Donc au scénario, on a Mac Walters, qui a travaillé déjà sur les précédents comics Mass Effect, qui étaient vraiment pas mal, parce qu'ils étaient vraiment bien dans la continuité des jeux. Et au dessin, on a Eduardo Francisco.
C'est publié chez qui? Chez Dark Horse, non?
C'est publié chez Dark Horse. Et donc bah moi, je suis un gros fan de la licence Mass Effect. J'ai plié les trois jeux, j'ai adoré. Et donc bah j'étais très content de voir arriver un nouveau comics Mass Effect. Bon, pour commencer, c'est pas mon perso préféré, James Vega, donc bon, j'étais un peu déçu que ça commence avec lui, mais je me suis dit il aura peut-être une bonne histoire, il y a de quoi compter de bonnes choses sur son personnage pendant qu'il était dans l'armée et tout ça. Mais malheureusement, en fait, l'histoire est vraiment vraiment décevante. Donc le principe, ça s'appelle Homeworlds, parce qu'en fait ça va raconter à chaque fois une histoire qui s'est passée sur leur planète d'origine. Donc là en fait l'histoire va se passer sur Terre, à San Diego, donc là où habitait James Vega quand il était jeune.
Mais non, là où il y a la Comic-Con, monsieur, enfin.
Aussi, voilà, c'est ça.
Voilà. Il était pote avec Gilbert Blanca aussi.
Et donc en fait ça se passe avant qu'il intègre l'armée.
Con. Je suis mort de rire maintenant.
Avant qu'il intègre l'armée, et en fait on voit une petite histoire avec son père qui veut faire tout pour qu'il ne rentre pas dans l'armée. Son père est un drogué, il se sert de lui. L'histoire est complètement inintéressante.
Tu as dit quoi? Son père est quoi?
Drogué.
Ah, j'avais pas compris ça du tout, excuse-moi.
Non mais c'est pas grave, donc il
tu enlèves le dé en fait, voilà ce que j'avais compris.
Non, son père est un drogué, en fait, il se drogue avec ce qu'on appelle le Red Sand.
Je me disais que tu avais une expression qui était un petit peu violente, je me suis dit, mais je te reconnais pas là, quand même.
Donc en fait, on voit une histoire où James Vega se retrouve confronté à son père qui ne veut pas qu'il rentre dans l'armée. Et on a une quinzaine de pages complètement inintéressantes, sans ambition. Très peu de clins d'œil sur l'univers Mass Effect, on aurait pu s'attendre à ce qu'il place pas mal de petites références au jeu, mais finalement, il y a très peu de choses. Et puis bah les dessins sont à la ramasse, donc surtout au niveau des visages et tout qui sont assez ratés. Pour moi c'est vraiment une grosse déception, il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux sur ce personnage. Donc ce premier numéro est un pass. J'espère que le prochain qui sera sur un personnage beaucoup plus intéressant qui est Garrus sera vraiment mieux. Mais pour celui-là en tout cas c'est vraiment un pass.
D'accord, et pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu. Alors, jouer à Mass Effect, comme
franchement,
moi, par exemple,
ça n'aurait.
Ne me jetez pas de pierre, me tapez pas, j'ai pas encore fait Mass Effect, j'ai pas une Xbox depuis très longtemps, donc j'ai pas.
Bon, il faut que tu y joues tout de suite, mais quelqu'un qui n'a pas joué à Mass Effect, il y a aucun intérêt à lire ce comics. Mais vraiment aucun.
D'accord.
Moi, j'attends donc, les épisodes
même
sur
pas comme
Chani
porte d'entrée dans l'univers, quoi.
Ouais, non, même, c'est même pas une porte d'entrée dans l'univers, puisqu'en fait, on ne voit presque rien de l'univers Mass Effect, et l'histoire est complètement bateau et inintéressante.
Ok. Bon, bah. Gros pass, hein.
Gros pass, ouais.
Tu allais ajouter quelque chose, Benny?
Non, je disais, j'attends l'histoire avec impatience avec Chun-Li et Monsieur Bison aussi.
Non, mais arrête! Déjà que j'étais obligé de couper le micro pour éviter de pourrir la review de King Ed parce que j'étais mort de rire. Ah, oh, putain. Ok, allez, on va continuer. On va passer chez DC de nouveau avec le Green Lantern Guardians numéro 8. Fini donc cette histoire avec Invictus, l'espèce de gros ange super balèze qui venait avec son propre système solaire. Enfin bon, bref, tout ça. Hein, pour ceux qui ont suivi, les autres, tant pis.
Ah bon, je suis complètement lâché. D'accord. En fait,
reprenez les derniers Comics Weekly.
Ouais, j'ai du retard moi aussi sur les New Guardians.
Invictus.
Et donc, là, en fait, nos différents lanternes de différentes couleurs retournent dans le monde normal, c'est-à-dire puisque quand ils étaient sur cette espèce de système solaire vaisseau, là, leur communication était complètement bloquée, ils étaient vraiment en marge de tout le reste de l'univers, et en revenant dans l'univers normal, c'est-à-dire en sortant des interférences que posait cette planète...
Ils s'aperçoivent que 20 ans ont passé.
Non, mais ils ont des updates de leur bague. Et donc, Arkilo découvre... c'est bien Arkilo hein, qui s'appelle.
C'est comme Windows Message... c'est comme Windows Update.
découvre qu'il n'y a plus de Sinestro Corps War, de Sinestro Corps, pourquoi War, je ne sais pas, mais
Sinestro Corps. Que la batterie a été détruite, c'est ça?
Voilà, que la batterie a été détruite, il n'y a plus personne du corps, plus personne n'a de puissance dans sa bague, donc voilà, c'est le dernier membre.
Qui a VX?
Kyle s'aperçoit que malgré qu'il ait été viré, il a quand même des updates de sa bague, donc voilà, mais il faut malgré tout ce qu'il rentre, aller se recharger absolument, puisqu'ils sont tous à 2-3% de puissance sur leur...
Il faut qu'ils téléchargent la dernière version de Norton Antivirus aussi.
Mais t'as fini de me pourrir ma review, toi. Indigo s'enfuit, s'enfuit en tout cas, part, et on verra ça dans Green Lantern 9, il reste quasiment plus personne de l'équipe. On va découvrir finalement que non seulement ils sont un petit peu en marge, puisqu'ils étaient partis vraiment dans leur coin, et quand ils reviennent, c'est encore plus le bordel, et ils ont d'un côté leur mission, la chose qu'ils avaient promis à Invictus pour retarder l'échéance de leur destruction, c'est-à-dire aller tuer l'Arflise, même si bon, ils vont essayer de trouver un moyen de pas le faire, et essayer de comprendre ce qu'ils ont raté entre temps, quoi. Et les choses ont bougé. C'est plutôt sympa, il y a un gros tournant pour le corps jaune. On apprend aussi quelques petites infos concernant les Star Sapphire. Chacun, en fait, va avoir une raison de retourner avec cette espèce d'équipe multicolore. Donc non, franchement, un bon épisode où il n'y a pas tant d'action que ça, mais c'est plutôt sympa. Et ouais, vraiment le gros tournant pour le corps jaune.
D'accord. Et donc, pour le corps au pied précisé...
Non, ça va, déjà, on l'avait déjà fait il y a... Il y a des lustres de ça. Il faut l'écouter tous les épisodes.
Il va mieux, je te remercie. Il est soigné, il est disparu. J'ai pas donné les crédits. Hein. C'est Tony Bédard au scénario, Tyler Kirkham au dessin et Bat à l'ancrage. Donc un bon épisode, je trouve.
En plus, j'allais faire une grosse blague bien plus crade parce qu'il a dit un gros tournant. Moi, j'allais dire j'attends l'épisode de la grosse tournante. Mais...
donc un bail, franchement un bail pour ceux qui aiment cette série. Bon, pour les autres, hein, ça vous réconciliera pas avec. Malheureusement.
Ok.
À toi, Benny.
Oh merde, de quoi je vais bien pouvoir parler? Dadada, Daredevil numéro 11. Par Mark Waid et Marco Cecchetto. Alors, que dire? Ça fait partie donc du fameux crossover Omega Effect.
Ouais, c'est la dernière partie. Hein.
Ouais. C'est la conclusion. Et quelle conclusion?
Alors. De merde.
Voilà. Grosso modo, j'ai l'impression que le but non avoué de tout ça, c'est d'introduire ce personnage de Punisherette.
Ben non, puisqu'elle était déjà dans les pages de Punisher.
Bien sûr, mais je veux dire, c'est de lui donner un peu plus d'importance et de présence dans l'univers Marvel, puisque là, on la confronte en plus à Daredevil et Spider-Man. Mais c'est tout. En fait, honnêtement, il se passe que dalle, quoi, dans cet épisode. Il y a cette scène, donc, où effectivement, elle fait face à Daredevil, où il y a pseudo-explication entre les deux persos, et puis, tout le monde retourne chez soi, hein, après le combat.
Ben, le problème de ce numéro, c'est que finalement, on en est au même point qu'avant le crossover, c'est-à-dire que le crossover n'a servi à strictement rien. Et là, c'est vraiment dommage. C'est le premier épisode de Daredevil qui m'a autant déçu.
Ouais.
Franchement, là, je suis dégoûté parce que ça n'a servi strictement à rien.
Bah là, ça m'a fait penser à un épisode de Punisher. C'est-à-dire, depuis le début, Punisher, c'est ça, quoi. Il se passe rien. C'est ça le problème. Il y a du potentiel. Il y a un potentiel énorme. Mais il se passe rien. Puis je sais pas ce que c'est que cette folie en ce moment de faire une version féminine de Ghost Rider, une version féminine du Punisher, après ce sera une version féminine de Daredevil, après ce sera...
Rappelle-toi, on a vu la version féminine de Bullseye.
Ouais, ben non mais forcément. Et
la version féminine de toute façon.
Et bientôt il y aura une version féminine de Steve et je veux pas avoir ça. Moi je veux pas avoir
ça. Enculé. par contre non, faut avouer que c'est superbe. Et oui. Je trouve que Cecchetto sur Daredevil... Mais c'est magnifique. Là, il en profite pour le... Contrairement aux autres parties, je trouve qu'il le met plus en scène. En même temps, c'est sa série, mais surtout dans des poses qui sont... Enfin, qu'on n'avait pas vu avant, quoi. On a vraiment Daredevil qui passe à travers les rues, etc. Et ça colle parfaitement sur Daredevil. Il nous fait un très très bon Daredevil, proche un petit peu du Daredevil de Joe Quesada.
Mais de toute façon, Cecchetto, d'habitude, il est surtout sur Punisher, justement.
Bah, il est sur Punisher, oui, bien sûr. Mais là, ça permet de le découvrir dessus. Et même sur Spider-Man, il s'en sort très bien.
Ah ouais, carrément. J'aime bien, moi, les dessinateurs qui font des yeux un peu, un peu tirés au masque de Spider-Man. Ouais. Je trouve que ça lui va bien.
Ça fait un peu plus à l'ancienne, en fait. Et c'était pas mal, quoi.
Ouais, ouais. Ça fait un petit peu... c'est pas la référence ultime, mais ça fait un petit peu les... Pensez aux adaptations films anciennes avec le costume.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est marrant. Enfin, moi, j'aime bien cette version-là.
Alors, à noter quand même que, au-delà du fait que c'était nul et que ça servait à rien, donc si vous voulez éviter le crossover, si vous n'avez pas trop d'argent, zappez carrément le crossover, c'est pas plus mal, parce que de toute façon, on en est au même point vraiment que juste avant. Il y aura un nouvel épisode de Daredevil la semaine prochaine. Encore, alors j'adore Daredevil, franchement j'adore ce relaunch, mais bon là ça m'a fortement déçu, mais j'en ai marre d'avoir du Daredevil toutes les semaines. Ça fait 4 semaines de suite qu'on a du Daredevil. Et on continue la semaine prochaine. Le seul avantage, c'est que la semaine prochaine, ce sera Chris Samnee qui est au dessin pendant que Paolo Rivera va récupérer un petit peu pour le prochain arc. Donc ça me fait plutôt plaisir, mais le mois prochain, on aura 2 épisodes de Daredevil encore une fois, c'est-à-dire qu'on aura le 12 la semaine prochaine et le 13 dans 3 semaines. Il va falloir arrêter de nous sortir 15 épisodes par an Marvel parce que ça devient fatigant, notamment pour la bourse. Parce qu'elle est pas extensible. Enfin voilà, moi je fais peut-être une petite surdose de Daredevil et j'espère que le prochain épisode va remonter le niveau. Moi, pour moi, celui-ci, c'est un gros pass. On va dire, allez, un check-it moins juste pour les dessins.
Ouais, pareil.
On va redonner la parole à Kinghead pour
ouais,
les
alors
derniers reviews.
On retourne chez DC maintenant, donc je vais vous parler de Superman numéro 8, donc avec une équipe de vétérans au niveau artistique, avec Dan Jurgens qui est au scénario et au dessin, Keith Giffen qui est au scénario, et Jesus Merino qui a travaillé aussi sur les dessins pour aider Dan Jurgens.
Donc, mais c'est magnifique, tout ça, c'est magnifique.
Voilà.
Je l'ai pas encore lu, mais je suis sûr que d'avance ce sera bien.
Mais les dessins sont sympas, c'est beaucoup moins verbeux que les premiers numéros de Superman.
On se moque pas de Georges Pérez, s'il te plaît.
Il y a un très beau, attends, moi je me suis arrêté sur la couverture, parce que je n'ai vu que ça pour le moment, je l'ai pas lu. Cette fameuse couverture hentai, hein, quand même, avec Superman qui en prend plein la bouche.
Oui, c'est ça.
Tentacule qui lui sort de la bouche, c'est bon, c'est bon.
Mais justement, ça commence avec Superman qui est sous le contrôle d'un parasite Demonite, et donc ça lui permet de voir un futur possible de l'univers DC.
C'est assez sympa. Je feuillette le comic, c'est super beau quand même. Enfin, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un petit peu à du Bagley, mais en plus fouillé. Enfin, c'est du Bagley mixé avec du George Pérez. Allez, soyons fous.
Mais c'est très sympa. Et donc c'est la suite un peu de cette confrontation entre Hellspont et Superman. Juste une petite note, Steve, t'avais dit que c'était le symbole qu'on voyait.
Oui,
des
dans le set,
en fait,
ouais.
C'est pas du tout ça. Hein.
C'est pas le même.
Non, c'était un symbole qui représentait le crâne de Hellspont, alors que le symbole des méchants qu'on voyait dans Justice League, il a 3 yeux. Et à mon avis, ces 3 yeux, c'est en rapport avec la Trinity of Evil. Voilà.
Ouais, mais c'est que j'ai lu trop vite.
Mais donc bon, c'est Hellspont versus Superman, et donc en fait, on en apprend beaucoup plus sur Hellspont, comment il se retrouve sur Terre, pourquoi il avait été emprisonné dans Stormwatch. Et en fait, il propose un marché à Superman. C'est assez intéressant. Le combat qui suit est plutôt chouette. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça fait un adversaire qui est vraiment à la taille de Superman, en fait, parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez puissant. Et donc, du coup, c'est sympa. Pour moi, c'est un bon check-it et une petite histoire sympathique. Et ça relève le niveau un peu des précédents Superman, qui étaient peut-être d'un moins bon niveau, quoi.
Est-ce que ça annonce quelque chose de bon pour la suite ou ça n'annonce rien?
Alors, ça annonce que Hellspont, c'est un personnage qu'on reverra plus tard, mais finalement, non, il n'y a pas. C'est un peu une fin d'un petit arc en 2 numéros.
Je pense qu'on va passer. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer dans le prochain, quoi. C'est ça que je veux dire.
En fait. Non. Le prochain, ce sera un début d'arc, je pense, quelque chose de nouveau.
Non, ce sera la fin. Le titre Superman est annulé. Voilà. Exclusivité Comic City, on vous le dit, on est les premiers à le dire.
Super, il vous restera plus que Grant Morrison à lire sur Action Comics.
Non, c'est annulé aussi. Au fait, ils vont complètement annuler Superman. Et ils vont le
redconner. Superman n'a jamais existé. Allez, un nouveau départ pour la Légion.
Ils vont faire une mort de Superman tous les mois. Tellement ils en ont marre de Superman.
Bon, pour moi, c'est un gros check-it. Voilà. Parce que c'est peut-être pas un bail, mais c'est vraiment un très bon check-it. Faut regarder. Et si les dessins vous plaisent, je pense que vous serez satisfait par l'histoire.
Ok. Allez, très vite, on retourne chez Marvel avec les New Avengers numéro 25. Alors, point de numéro spécial, double size, puisque c'est un numéro 25. Dommage.
Quelle déception. On aurait eu un double de page de Luke Cage et de Jessica Jones. Franchement, c'est dommage.
Mais pas du tout. Pas du tout.
Ouais, s'il te plaît.
Bendis est au scénario, bien sûr. Au dessin, on a du Mike Deodato et du Will Conrad. Et donc, cet épisode, déjà, est superbe. Premièrement, c'est le premier truc, c'est qu'il est superbe. Et on ne voit pas du tout les New Avengers.
Ah, bah c'est pas étonnant. Voilà.
En fait, donc c'est tie-in à AVX, bien évidemment. Et là, on est à Kunlun. On a le maître Yuti de Iron Fist.
Oui.
Voilà, on est dans l'univers d'Iron Fist. Et le maître Yuti a des visions du Phénix qui rejoint le Iron Fist.
Le maître Yeti est très poilu.
Et je m'attendais à ce que quelqu'un fasse cette vanne, je me suis dit « Oh, mon Dieu, j'y ai échappé !» Ah non, pas du tout. Et donc, il va se mettre en quête de la fille qu'il voit dans ses visions, une fille rousse, qui qui a le symbole d'Iron Fist sur la poitrine et qui maîtrise la Phoenix Force.
C'est le Phoenix Fist.
Ouais, le Phoenix Fist. Ça va être beau. C'est franchement super beau. On est à milieu du crossover, c'est beaucoup plus calme. Et donc on nous annonce qu'il y a toujours eu, mais que ça a été caché jusqu'à ce que la Phoenix Force revienne. Il y a toujours eu un lien entre la Phoenix Force et Iron Fist. Donc quel est-il? Bah on verra. En tout cas, moi j'ai eu vraiment envie de lire la suite. Parce que bah voilà, on est retourné un petit peu dans cet univers d'Iron Fist que j'aime beaucoup. Et en plus servi par des dessins de Deodato. Que demander de mieux quoi. Donc pour moi, c'est pas essentiel à la lecture pour comprendre AVX, mais c'est un bon check-it quoi. Un vrai check-it plus celui-ci.
Dernier comic pour moi de la semaine, Aquaman de Geoff Johns et Ivan Reis. Bah alors déjà, on va le dire d'emblée, c'est toujours super. J'espère qu'Ivan Reis va tenir la cadence et qu'il va nous faire un run de folie sur Aquaman.
Tenez la cadence déjà pas mal hein, sur Green Lantern. Hein, donc,
Non mais ouais. C'est sublime. En plus, il se permet même de faire des dessins pour Justice League, donc ça va, il gère.
Ouais. Non mais là, il est au top de sa carrière. Je pense qu'il a son apogée.
Faut que personne le tue à la Comic Con en France, quoi.
Des idées bizarres quand même.
Très étrange ça, quand même. Est-ce que tu as consulté un?
Non mais tu sais que si jamais il y avait un attentat contre Ivan Reis, tu serais le premier soupçonné.
Voilà, faudrait éditer le podcast, merde. Non parce que j'adore ses dessins, donc je veux vraiment pas qu'il y ait d'attentat sur Ivan Reis.
Avoue, tu vas faire comme Misery, tu vas l'enlever, tu vas lui briser les jambes et tu vas demander de dessiner pour toi toute la journée.
Toutes les nanas,
dans un rôle à la quête de Kathy Bates, quoi. Étrange. Kinhead, c'est Kathy Bates français, en fait.
Sur ces bonnes paroles. Donc, l'arc en cours s'appelle The Others, c'est la deuxième partie. Et on en apprend un peu plus sur le passé caché d'Aquaman à travers ces fameux Others qui ont fait leur apparition. Et il va en retrouver quelques-uns. Et affronter un mystérieux ennemi. Mais au fait, ce qu'il y a de plus intéressant, j'ai trouvé, c'était la fin. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que, encore une fois, ça se lit très vite. Et ça se termine un petit peu au même point que la dernière fois j'ai trouvé avec on peut le dire avec Black Manta hein, c'est comme ça qu'il s'appelle je dis pas de
conneries. Oui c'est ça
et on a envie d'en savoir plus sur le rôle qu'il a joué et on en sait toujours plus.
On se doute quand même de pas mal de choses par rapport à Arthur et sa quête de vengeance s'il en veut autant à Black Manta on commence à se douter qu'il est peut-être impliqué dans quelque chose en rapport avec la vie d'Arthur. J'ai vraiment bien aimé. Je sais pas si t'as vu Bunny, mais tu trouves pas qu'il y a aussi une petite ressemblance avec les Chevaliers du Zodiac, avec les Others qui ont chacun des armes dorées. On a l'impression qu'ils ont tous l'armure d'or d'Atlantis et que chacun a une partie de l'armure d'or et qu'en fait Black Manta est en train de récupérer chacune des parties pour rassembler l'armure d'Atlantis.
Oui, ça m'a fait penser à la saga du Phénix. Hein,
ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. Ça fait un petit clin d'œil. Après, je sais pas.
Oh mon frère, non. Pourquoi es-tu si méchant? Parce que.
Mais non, c'est vraiment très beau, je suis d'accord avec toi, et on a envie d'en savoir plus, donc ça veut dire que le comics nous plaît, quoi, donc...
Shane Nebuler.
Pour moi, c'est superbe, rythmé et passionnant, donc du bon comics.
Mais par contre, le seul défaut, s'il doit y en avoir un, c'est que ça se lit décidément très vite, c'est un plaisir fugace. Dommage, on aimerait en avoir plus à chaque fois, quand même.
Voilà, comme le même rythme que Daredevil en fait, on voudrait du Aquaman.
Non, parce que franchement, quand quelque chose est trop bon et en avoir trop, finalement, ça perd sa saveur.
Faudrait que Geoff Johns écrive un peu plus, enfin que ce soit un peu plus.
Oui, bah oui, bien sûr. Il est tellement bon en ce moment.
Non, mais écrive un peu plus, qu'il fasse un peu plus de texte, je veux dire, dans Aquaman. C'est-à-dire que voilà, là c'est pas assez verbeux, c'est très décompressé.
Mais c'est parce qu'il n'a pas le temps à gérer trop de séries.
Et il faudrait qu'il se concentre là-dessus, parce que c'est là où il est le meilleur actuellement. Je pense qu'on est tous d'accord. Il y a Green Lantern. Toujours qui est bon, mais bon, voilà. Aquaman, ouais,
il est vraiment meilleur sur Aquaman.
Ouais. Aquaman, c'est une très bonne surprise, depuis le début.
Aquaman, c'est la série des New 52 à suivre quasiment, avec Animal Man, avec Swamp Thing et peut-être. Non, il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36 des vraiment bonnes, je trouve. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, monsieur.
Très bien.
Alors moi je vais rester chez DC, je vais vous parler du dernier numéro de Batman The Dark Knight. Donc ce n'est plus David Finch au scénario, c'est Joe Harris.
Parce qu'il est crédité.
Oui mais en fait il est crédité à la couverture, et peut-être qu'il a participé un peu au plot, mais le scénario est de Joe Harris. Et les dessins sont de Ed Benes. Donc les dessins ça reste quand même très proche du style de Finch, c'est assez joli, et c'est un numéro... plutôt pas mal. En fait, c'est une enquête policière avec Batman qui se retrouve face à une vague de suicides à Gotham, les gens qui se suicident comme ça sans raison. Et donc il enquête pour savoir pourquoi il y a cette vague de suicides. Donc c'est un titre qui est quand même assez violent. Il y a toujours ce petit lien qu'on a depuis le début avec Alice au Pays des Merveilles. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est qu'en fait, il y a toute une partie du comics qui s'intéresse plus à Gordon, en fait, puisqu'il se trouve... il a des problèmes avec la police des polices qui enquête sur lui et qui lui demande d'aller voir un psychiatre et tout parce que il aurait peut-être des enfin il a des problèmes dans sa vie, il a des problèmes avec Batman.
Je l'ai pas encore lu et j'ai une question mais primordiale qui est ouais. Super, enfin je veux dire il serait bête de ne pas lier ça à cette chose dont je vais te parler, mais est-ce qu'il y a un lien d'établi entre lui et son fils quand même,
il y a une phrase justement quand il voit la psy où il évoque sa famille et puis son que c'est difficile pour lui quoi. Donc
mais il serait bon qu'il lie vraiment les deux intrigues parce que là ce serait trop bête de passer à côté quoi.
Peut-être ouais, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'on s'ennuie pas, le dessin est pas mal et c'est vraiment bien meilleur que les Detective Comics. Donc ça relève le niveau aussi du premier arc qui était pas génial. Pour moi c'est un check it plus aussi. Franchement c'est pas trop mal.
Ça me fait plaisir, tiens. Je vais le lire. Alors je vais le prendre. Je l'ai pas pris. Voilà. Je me suis dit je vais m'arrêter là, Jean-Pierre, et puis finalement peut-être.
Non, c'est mieux que le premier arc. Ça redémarre bien. Mais pas de lien avec Night of the Owl. C'est juste à la fin on sait que le prochain numéro sera en lien, mais en tout cas dans ce comics là ils en parlent pas.
Ok. Et pour finir, on va rester chez DC avec le Flash numéro 8. Francis Manapul est au scénario, accompagné de Brian Buccellato, bien sûr. Francis Manapul signe les dessins et Brian Buccellato les couleurs.
Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Manapul ?
Salut ma poule !
Et voilà ! Salut ma poule !
Flash va être prisonnier de la Speed Force. Hein. Vous savez, au dernier épisode, il avait sauté dans ce vortex qu'il avait créé.
Oui, moi je suis un peu speed.
Et donc, au sein de la Speed Force, il va découvrir ce qu'il se passe et comprendre pourquoi il y a des anomalies temporelles qu'on a pu le voir dans le premier arc, hein, tout simplement. Il va tomber sur un personnage qui est un nouveau personnage qui est prisonnier de cette Speed Force depuis la Seconde Guerre mondiale, que l'isolement a rendu fou. Ça va pas forcément très très bien se passer, puisque il était parti comme à la recherche d'Iris, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui avait disparu dans un vortex dans le dernier épisode.
C'est des choses qui
on va aussi avoir l'apparition de Gorilla Grodd façon New 52.
Ah, oh, ça c'est une bonne nouvelle ça.
Ouais, voilà. Je sais pas, ça rend bien.
Ça rend bien et moi en tout cas j'ai hâte de lire le prochain épisode. Celui-ci est sympathique, on arrive à comprendre certains trucs, on se rend compte que Flash n'est peut-être pas autant responsable de ses problèmes de temps qu'on pourrait le penser au départ. Mais voilà, le prochain épisode risque d'envoyer sévère.
Et c'est bien expliqué la Speed Force parce que c'est vrai que c'est toujours été quelque chose un peu vague précédemment.
Ouais. On en apprend un petit peu plus en tout cas.
D'accord.
On apprend un petit peu plus. C'est assez différent quand même de ce qu'on connaissait avant Reboot. C'est franchement toujours pas mal quoi. Ils tiennent bien la série. Je pariais pas cher dessus. Hein. Manapul et Buccellato au scénario. Je me disais bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire. C'est toujours très beau. Il y a toujours une superbe mise en scène avec des pages un petit peu dans l'esprit de ce que fait J.H. Williams 3.
D'accord.
Plus avec des tons pastels. Hein. Enfin, comme on a l'habitude de toute façon en lisant Flash quoi. Donc non, c'est toujours très sympa. C'est un bon check-it quoi. Un bon check-it plus même. Je pense que le prochain lui par contre sera un bail.
Gorilla Grodd, le retour.
Ça va péter. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les sorties de la semaine prochaine, forcément.
Non, dans 3 mois, bien sûr.
Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, le site bien évidemment, avec les commentaires et tous les autres articles. Et puis, vous pouvez nous envoyer des mails, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr. Et n'oubliez pas de vous rendre sur cinécomics.fr pour ce grand concours où vous pouvez gagner une réplique du bouclier de Captain America, du marteau de Thor ou encore du cœur de Tony Stark, qui sont quand même 3 putains de gros lots à gagner, quoi. Franchement, parce que c'est vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et puis à participer à ce concours. Sur ce, je ne vois pas quoi rajouter, sinon qu'on a réussi à faire un épisode court et je suis très content. On se retrouve donc la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde, alors.
Même chaîne, même heure.
Et puis, je crois que tu voulais finir sur un petit mot particulier, Benny. J'avais un petit mot de la fin, je crois.
Et oui, mais j'ai complètement oublié, du coup.
Et vice versa? Non, c'était pas ça.
Si, t'avais dit quand c'est trop.
Ah oui, quand c'est trop, c'est trop pico.
Quand c'est trop, c'est trop pico. Trop pico pico.
Ça, c'est de la fin comme on les aime. À la semaine prochaine, tout le monde.
Ciao.